Soyez là. Je vais essayer d'être là aussi. 14h. Bye.
Leclerc Communication, la seule entreprise de radiodiffusion 100% locale et familiale, vous remercie.
La radio à Québec, c'est plus qu'un média d'habitude. C'est un membre de la famille. C'est presque une religion.
Et il n'y a personne de mieux placé que les gens de Québec pour offrir le meilleur combo radiophonique aux gens de Québec.
Week-end 91.9. Boulevard 102.1.
Merci de nous aider chaque jour à faire de la radio locale.
Avec et pour vous.
Parce qu'on vit le même maudit trafic que vous autres.
On mange dans les mêmes restos.
On se croise dans les mêmes festivals.
Notre radio, c'est votre quotidien. Notre quotidien, c'est votre radio. Puis ben, on changera pas. Promis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Bonsoir, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec dans le podcast de Marceau. Soit dit en passant, merci d'être là. C'est la journée mondiale de la radio. Donc, merci aux auditeurs, merci à tous les artisans de radio qui rendent ce médium-là extrêmement vivant. Encore en 2025, la radio, je pense que c'est le plus vieux médium qu'on a. Puis encore à ce jour, il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec ça. Puis c'est grâce à vous autres parce que vous êtes présents. Puis les artisans, bien entendu, que vous faites ce métier-là avec passion. Puis il y a des collaborateurs aussi, dont une collaboratrice que je reçois ce soir, avec qui j'ai le plaisir de faire des chroniques depuis déjà quelques années. Elle est avec nous pour les 60 prochaines minutes. Je l'appelle Madame SOS, mais son vrai nom, c'est Nancy Doyon, d'SOS Nancy. Salut Nancy!
Salut, salut!
Très content de te jaser, donc bonne journée internationale de la radio.
Ça doit faire une dizaine d'années qu'on collabore ensemble.
Ben oui, ça fait à peu près 10 ans, toi et moi. Après ça, c'est des couples radio. Après ça, je parlais avec Mathieu Thomassin, Matt Thomassin, ça fait une quinzaine d'années. Ça fait une couple d'années qu'on fait de la radio. Moi, j'en fais depuis 2006. T'as commencé comment, toi, les médias, hein?
Par pur hasard, en fait, je travaillais pour une organisation qui s'appelait l'École des parents.
Ouais.
Puis il y avait défunt Canal Vox qui avait demandé quelqu'un de cet organisme-là pour venir parler de l'organisme. Mm-hmm. Puis les gens ont tout dit « Ah non, moi, je suis pas game d'y aller. » Puis moi, j'ai pas peur du ridicule. Fait que je dis « Ben, je vais y aller, moi. » Puis le pire qui peut arriver, c'est que je me plante. Puis mes amis ont un bon prétexte pour rire de moi pour les 20 prochaines années. Fait que je suis allée. Puis c'était super le fun, cette émission Bonheur Total avec José Arsenault.
Oui, ben oui.
Et puis, en partant, je leur ai dit, je disais, super bonne votre émission, ce qui vous manque, c'est une chronique famille. Fait que je dis ça en blague. Puis le lendemain, ils m'ont rappelé en disant, ouais, t'as bien raison, ça te tente-tu de faire de la chronique famille? Fait que j'ai commencé là, puis ben, tu sais, Canal Vox, dans le temps, hein, les émissions, tu sais, passaient souvent.
Ouais.
Fait qu'il y a d'autres personnes qui m'ont vu, qui étaient en radio, qui m'ont fait « Ah, oh, tiens! » Fait que je me suis mis à faire des entrevues ici et là, puis j'ai développé des collaborations progressivement avec les années. Là.
SOS Nancy, bon, c'est une femme d'affaires, elle a son entreprise, toi, tu as une formation d'éducatrice spécialisée.
Exact.
OK. Puis à partir de quel moment, parce que tu as commencé à faire des médias, à partir de quel moment tu es devenue SOS Nancy?
Dans les années qui ont suivi, mais à l'époque, j'étais Nancy Doyon, coach familial. Quand j'ai commencé à faire de la radio ou de la télé,
ouais.
À ce moment-là, je donnais déjà des conférences un peu puis des formations. Puis je commençais comme sideline à donner des services en éducation spécialisée à domicile. Puis là, après ça, je suis allée me former en coaching. Puis là, c'est devenu du coaching familial.
Ouais.
Mais c'est ça, fait que moi, ça me permettait, ça me donnait une belle vitrine. Puis je le cacherai pas. Le fait d'être dans les médias, ça m'a poussé à écrire un bouquin. Ça m'a aidé à ce que mon bouquin soit vendu. Mon bouquin m'a aidé à donner plus de conférences. Fait que tout ça a grossi. Puis à un moment donné, ben là, ce qui était à la base un sideline, puis qui devait rester un sideline, moi, j'étais maman monoparentale cassée. Ça faisait bien. Moi, j'avais ouvert un compte, ça s'appelait le compte fun. Fait que quand je faisais des conférences, quand je faisais des coachings, je mettais ça là-dedans, puis ça servait juste à avoir du plaisir avec ma fille, parce que j'arrivais super serrée avec mon salaire d'éducatrice spécialisée. Puis là, ben, à un moment donné, ben c'est ça, le coaching a pris de plus en plus de place.
Le compte fun a pris de plus en plus de place. Là, il y a un chèque arabe qui a dit « On a du pétrole à te vendre, SOS Nancy, là, t'as beaucoup d'argent de côté. » T'as décidé de te partir en affaires. Depuis que t'as commencé avec SOS Nancy, est-ce que t'as comptabilisé le nombre de familles que t'as aidées, toi et ton équipe, depuis toutes ces années-là?
Eh hey boy! Non, ça serait intéressant. En fait, je les avais sortis, les chiffres. T'aurais dû me les demander. Je les ai quelque part dans mon ordinateur. Mais c'est quand même quelques milliers, là, tu sais. Là, mon équipe, je l'ai réduit parce que j'aimais mieux avoir des listes d'attente que de gérer des trop grosses équipes. Je trouvais ça difficile.
Ouais.
Mais tu sais, à un moment donné, j'ai eu jusqu'à 26 coachs qui travaillaient pour moi puis qui allaient dans les familles. Fait que à ce moment-là, on en desservait beaucoup. Mais en même temps, c'est difficile à compter parce que avec l'école, ben, parce que là, maintenant, j'ai trois coachs qui travaillent pour moi à temps plein, que trois. Moi, j'en fais presque plus de coaching familial. Là. Je revois des anciens clients ou dans des situations plus ponctuelles. Mais tu sais, à travers mes conférences, à travers mes formations, c'est quand même énorme. Ma page Facebook, j'ai 150 000 personnes dessus. J'ai un groupe Facebook avec 40 000 personnes. Ma chaîne YouTube, on avait calculé à un moment donné que je dépassais le million de vues.
Wow.
J'ai une école de coaching qui forme des intervenants qui vont eux autres aussi aider des familles. Puis ça, je pense que j'en ai à peu près 800 de former des intervenants un peu partout sur la planète. Fait que oui, ça fait quand même, quand on se met à calculer, là, ça fait plusieurs milliers de familles qui ont passé à travers le coaching familial, puis l'approche que c'est moi qui ai développée quand même.
Exact. Non, mais c'est une très belle histoire. Il y a certainement des questions qui vont arriver au courant de la soirée, parce qu'on est quoi, à 60 minutes avec SOS Nancy. Tiens, une question d'un certain Yann. J'ai pas son nom de famille, là, mais des enfants de, mettons, 8 ans et 11 ans. On va y aller précis, tu sais. Deux gars. Mettons, deux gars. Ça finit quand de se taper ça à la tête, ça, ces deux gars-là? Tu sais, c'est, à un moment donné, ça arrête.
Écoute,
ça?
Moi, je te dirais à peu près 23-24 ans.
OK, OK. C'est, ça doit être assez surprenant pour la personne qui m'a envoyé la question, mais mettons que c'était mes enfants. OK, 22-23 ans, ils arrêtent ça là. Non, mais c'est vrai, les parents, on a tout le temps une multitude de questions. Puis, tu sais, t'as-tu déjà pensé, puis je sais pas si tu l'as déjà fait, parce que t'as déjà beaucoup de livres de fait, t'as-tu déjà pensé à faire le mode d'emploi pour des parents nuls, 101, mettons?
Ben, c'est pas mal ça que je fais, dans le fond, dans toutes mes formations. Ben, c'est pas pour les parents nuls. Moi, je m'adresse pas aux parents nuls. Je m'adresse juste aux bons parents qui font de leur mieux, mais qui font des bêtises de temps en temps.
Mais devenir parent pour les nuls, mettons.
Oui, c'est ça.
Là, si tu prends le livre, là, si tu fais le livre, moi, je charge 10%. Je t'ai trouvé le titre, là, de devenir parent pour les nuls.
Mais je pense que ça existe déjà. Ah. Mais dans le fond, mon livre, Parents gros bon sens, puis mon livre, Parents responsabilisants, c'est pas mal ça. C'est pas mal une espèce de mode d'emploi. Mais en même temps, moi, je suis allergique aux méthodes. En fait, j'en donne des méthodes, là, tu sais, j'ai la méthode gros bon sens, tout ça, mais ce que j'aime pas, c'est quand certains intervenants disent « Voici la façon d'éduquer tous les enfants, puis si tu fais ça, ça va régler le problème. » Mais tu sais, mettons, on parlait de rivalité entre frères, là, hypothétiquement. Mmh. Ben, tu sais, t'as des gens qui vont écrire un bouquin en disant « Ben, si tu fais ça, 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 la méthode ABC, tes enfants vont vivre en harmonie. » Oui, mais non. C'est pas aussi simple que ça. Tu sais, ce matin, pas plus tard que ce matin, je donnais une formation à des familles d'accueil sur la gestion des crises de colère.
Ouais.
Puis, tu sais, ils auraient bien aimé ça que je leur dise, bien, voici comment gérer toutes les crises de colère, puis voici comment faire pour que votre enfant ne fasse pas de crise de colère. Mais ça n'existe pas. Fait que, tu sais, je peux leur donner des pistes, mais tu sais, je veux dire, là, je ne vais pas gérer une crise de colère d'un enfant de 2 ans comme celle d'un enfant de 12 ans. Je ne vais pas gérer des crisettes de la même façon que je gère une crise olympique avec de la violence puis des chaises qui revolent. Je ne vais pas gérer la crise d'un enfant autiste de la même façon qu'un modèle standard. Si le jeune, puis tu sais, bon, on parlait à des familles d'accueil, si le jeune a des enjeux au niveau de l'attachement, bien, je ne vais peut-être pas l'envoyer en retrait dans sa chambre. Tu sais, fait qu'il y a comme un paquet de ça dépend. Fait que, tu sais, un livre où on irait plus. Tu sais, mon livre, Parents gros bon sens, en fait, le premier, ce que je voulais justement, c'était ça, c'est dire aux gens, il n'en existe pas des recettes. Prenez du recul, observez votre enfant, posez-vous des questions, puis faites pas juste vous concentrer sur le comportement. T'sais, on est plusieurs intervenants à dire la même chose. Les comportements dérangeants des enfants, c'est souvent le symptôme de quelque chose. Puis, oui, il faut agir sur le comportement quand même. Tu sais, si j'ai un jeune que quand il est frustré, il brise des objets ou il insulte, bien sûr qu'il faut que j'arrête, faut que je fasse un peu de l'arrêt d'agir puis que je l'empêche de faire mal. Puis de... Mais il faut aussi surtout que je prenne du recul puis que je me dise, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'autocontrôle puis qu'il est impulsif? Si oui, qu'est-ce que je peux faire en amont des crises pour l'aider à développer plus d'autocontrôle, une meilleure connaissance de soi, se sentir un petit peu plus, être capable de se parler, développer son discours interne, par exemple? Est-ce que c'est parce que cet enfant-là, il est anxieux, puis il pète des plombs quand il est déclenché dans son anxiété? Bien, dans ce cas-là, je vais peut-être travailler sur son anxiété. Les crises vont disparaître.
Ouais.
Est-ce que c'est un enfant qui a une mauvaise perception de lui? Lui, là, il s'est tellement fait chicaner et punir qu'il est persuadé qu'il joue dans l'équipe des méchants. Fait que quand il est frustré, ben regarde, il vomit sa colère sur tout le monde, puis il se dit, ben regarde, tant pis, ça peut. Est-ce que c'est un enfant qui a tendance à accumuler les émotions toute la journée à l'école, admettons, puis là, il se garde tout le temps sur le break, sur le frein, puis là, il essaie toujours d'être parfait à l'école, puis quand il arrive à la maison, tu sais, il est comme une espèce de petit baril de poudre, puis là, il est pas bien, puis il se trouve un prétexte pour faire une crise puis décharger ça. Mmh.
Mais ça, ça prend des gens comme toi pour analyser les enfants à la maison.
Ben, oui,
toutes les choses
ça,
que tu m'apportes là, moi, heureusement que j'ai la chance de te côtoyer, fait que ça me coûte moins cher, là, puis j'apprends plein d'affaires, mais toutes les choses que tu nous jases là, il faut être capable de les détecter. Tu parlais d'anxiété tantôt, l'anxiété, elle peut être sous plein d'autres formes que celles que nous, on peut avoir quand on fait de l'anxiété. Oui, effectivement, des professionnels, c'est important si on a des problématiques avec nos enfants. Ça peut être de simples problématiques, comme ça peut être des cas plus compliqués. Parlons de persévérance scolaire. J'ai la chance d'avoir deux enfants qui ressemblent beaucoup à leur mère au niveau scolaire, ce qui fait en sorte que je n'ai pas de problème et je suis très content qu'ils ressemblent à leur mère de ce côté-là. Bon, la beauté aussi, certains diront, mais
c'est un joyeux mélange.
Ben, c'est ça, c'est un joyeux. Ils ont mes yeux, c'est tout, mais au moins, ils ont mes yeux. Tu sais, bon nombre de parents ont des difficultés avec leurs enfants pour ce qui est de la persévérance scolaire. Des fois, les enfants arrivent à la maison, sont déjà fatigués parce qu'ils ont eu une grosse journée. Puis là, on arrive avec des devoirs, des leçons, beaucoup d'impatience aussi. Comme tu l'as dit, ça peut être des enfants qui ont une grosse dose d'énergie, qui doivent doser pendant la journée. Puis là, ils arrivent à la maison puis ils explosent. On est dans la semaine de la persévérance scolaire actuellement?
Oui. Ben en fait, la même façon que ce que je te disais par rapport aux crises,
ouais.
Si j'ai un enfant, ça me ramène un peu, tu disais, mais si j'écrivais un livre qui était La parentalité pour les nuls, ben ce serait encore une fois de dire, ben quand ça coince sur quelque chose, prenez deux pas de recul. Essayez de comprendre. Si votre jeune a du mal à persévérer, il dit qu'il n'aime pas l'école. Tous les matins, c'est la guerre pour l'envoyer à l'école. Puis le soir, quand il revient, il explose. Les devoirs et leçons, c'est pénible. Je me bats avec. Bien, je peux continuer à me battre avec mon jeune à tous les matins pour qu'il aille à l'école en lui disant « t'as pas le choix », puis me battre avec lui à tous les soirs pour les devoirs et leçons. Mais je peux aussi prendre deux pas de recul puis dire, puis d'une manière ou d'une autre, je vais l'envoyer à l'école pareil. Puis d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il fasse ses devoirs, puis braille, cri, chiale, crache, cri, mort, il va falloir que tu fasses pareil. T'sais. Mais je peux aussi, en même temps que je l'oblige à faire ses devoirs, puis tout ça, puis là, écoutez, vous comprenez que je caricaturais là, comme parent, si mon enfant ne veut pas faire ses devoirs, je ne vais pas y rentrer dedans, je vais peut-être être un peu plus accueillante. Maintenant, il faut que je prenne du recul. Je dis, mais pourquoi il n'aime pas l'école? C'est quoi les divers enjeux qui fait qu'il n'aime pas l'école? C'est-tu parce qu'il manque de compétences sociales, il manque d'habileté sociale, puis il ne sait pas comment se faire des amis, puis à l'école, il est tout le temps mis un peu à part, puis il aimerait ça se faire des amis, mais il ne sait pas comment, fait qu'il, tu sais, peut-être qu'il mène du rejet et peut-être même de l'intimidation.
Connaître les sources de. Puis, tu sais, toi et moi, on était à l'école. On a tout le temps, on a souvent eu des profs qui étaient hyper passionnés. En fait, en majorité, c'est des profs qui étaient hyper passionnés par leur métier. Mais on a connu aussi au secondaire, plutôt dans mon cas, des professeurs qui étaient complètement désabusés, puis qui répétaient constamment la même matière année après année, sans vraiment différence avec l'autre année d'avant, puis qui donnaient un peu l'impression qu'ils n'aimaient pas nécessairement ce qu'ils faisaient. Puis, ça ne nous rendait pas le cours très intéressant, ce qui faisait en sorte qu'on avait une petite tendance à décrocher, donc nécessairement les notes qui allaient avec le cours qui nous était donné, de se poser des questions.
Ça peut être ça.
Ouais.
Ça peut être aussi, tu sais, un des facteurs qui va beaucoup jouer sur la motivation scolaire, c'est l'utilisation des écrans. Plus mon jeune joue à des jeux vidéo, plus il y a de risques d'avoir du mal à rester motivé à l'école. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de prof qui est capable de rivaliser avec la stimulation sensorielle que le jeune a à travers ses jeux vidéo. Fait qu'il s'emmerde beaucoup plus vite que la moyenne. Deux, les jeux vidéo viennent gruger, j'appelle ça le jus de cerveau. Donc, ça vient diminuer les capacités d'attention-concentration.
Mm-hmm.
Donc, si le jeune a joué, a gamé jusqu'à, je ne sais pas, moi, 10h, 11h la veille, le matin, il était sur son sel dans l'autobus, il s'en va à l'école, il n'y a plus de jus de cerveau rendu à 10h le matin, il n'y a plus de capacité d'attention, fait qu'il ne suit plus trop ce qui se passe, il y a pas des bons résultats. Puis, tu sais, puis dans la vie, quand on s'incompétent dans quelque chose, généralement, on n'aime pas ça. Tu sais, moi, j'aime pas le tricot. Moi, j'ai un déficit d'attention. Tricoter avec un déficit d'attention, c'est pas winner, ça fait des fleurs avec des trous. Fait que je suis pas motivée à faire du... Je suis pas motivée à faire du tricot, tu comprends? Fait que le jeune qui a des difficultés scolaires, liées par exemple aux écrans ou à autre chose, puis qui se sent tout le temps à côté de la plaque, c'est sûr que c'est dur pour la persévérance scolaire.
Tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai pogné mon plus jeune, il était dans la salle de jeu chez nous, puis moi, ils ont des heures où ils peuvent jouer, puis des heures où ils ne peuvent pas jouer. Donc, c'est une heure le samedi et le dimanche matin, puis deux heures le samedi soir et le dimanche soir. Puis la semaine, c'est interdiction de jeux vidéo à la maison. Puis ça, je me suis entendu avec la mère des enfants. C'est ça, nous autres, chez nous, on est des parents, on terrorise nos enfants, on leur dit « Vous jouerez pas aux jeux vidéo » et on est les pires parents du monde parfois.
Je vous appuie. Mettez ça sur mon dos,
Ouais. Puis c'est un samedi ou un dimanche matin, je me lève, puis je m'aperçois que mon plus jeune de 8 ans est dans le sous-sol, puis nous autres, tu sais, moi, je suis un gars, j'aime bien avoir beaucoup d'écrans à la maison, je leur ai fait une salle de jeu en bas où il y a deux écrans géants qui sont un par-dessus l'autre. En haut, SOS Nancy, il jouait à son jeu. Sur l'écran du bas, qui est un écran géant, il écoutait son YouTuber. Puis sur son téléphone, où il jouait à des petits jeux, il jouait aussi à des jeux. Puis là, j'ai descendu en bas, j'ai vu l'image d'horreur. Je dis non, c'est terminé, je veux pas ça. Fait que là, j'ai été obligé en plus de mettre des heures de jeu. C'est un écran à la fois. Soit que tu es avec ton cellulaire pendant une heure, ou soit que tu es avec ton jeu vidéo pendant une heure, ou soit que tu regardes ton YouTuber pendant une heure. Mais tu peux pas faire les trois en même temps. C'est de la surstimulation. Ce qui fait en sorte un peu comme tu l'as dit tantôt, si tu as des professeurs qui sont pas hyper stimulants, l'enfant, il va juste décrocher parce que son cerveau est habitué à aller à 300 km/h.
Ça, puis tu sais, tu as le temps d'écran, mais tu as aussi ce à quoi l'enfant joue. Tu as beaucoup de jeux qui sont montés par des psychologues et des psychiatres de telle sorte que même quand l'enfant ne joue pas, son cerveau, il est tout le temps en train de penser à son jeu. Fait que tu sais, si le jeune est en classe puis qu'il est en train de penser à son village qui va tout de même se faire attaquer par le Belge qui n'est pas ses mêmes heures, il est en classe, mais il n'est pas en classe. Il est là, mais il n'est pas là.
Mm-hmm.
Là, présentement, les écoles aussi sortent les téléphones, alléluia, parce qu'on voit sur le terrain, bon, une baisse de motivation scolaire, mais une baisse de compétences sociales aussi. Les jeunes, c'est facile. Entre les cours ou à la récréation, c'est facile de s'installer quelque part puis d'être sur ton téléphone au lieu d'aller vers les autres. Puis là, moins tu vas vers les autres, moins tu développes tes compétences sociales. Moins tu développes tes compétences sociales, plus tu as peur d'aller vers les autres. Au niveau de la persévérance scolaire, moi, j'ai envie aussi de dire aux parents, quelle est l'image qu'à la maison, on donne de l'école. qu'on donne de l'école et qu'on donne aux apprentissages en général. Est-ce que chez nous, on a cultivé une espèce de curiosité intellectuelle? Je te donne un exemple. À un moment donné, je suis avec dans mon ancienne famille recomposée, maintenant décomposée, je ne me souviens pas qui autour de la table a fait, je pense que c'est le petit dernier de mon ex qui dit « Hey, coudonc, les anguilles électriques, là, ils font quoi pour faire de l'électricité? » Fait « On ne sait pas. » Fait qu'après manger, on a tout ouvert nos ordinateurs et nos affaires, puis on a fouillé. Puis là, ma fille nous a trouvé un documentaire sur les anguilles électriques. On a mis ça sur la TV, puis on écoutait ça.
Wow!
Bon, je me rappelle absolument pas du contenu, mais quelque part, tu sais, ce qu'on dit, c'est « Wow, c'est intéressant de le savoir. » Tu sais, moi, je suis aussi, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, moi, je suis une grande fan des jeux de société. Des jeux de société, pas des jeux de hasard, mais des jeux de société qui demandent un peu de stratégie.
Un Monopoly.
Monopoly, échec, dame, Scrabble, Romy, tu sais, des jeux que faut que tu réfléchisses un peu, puis que tu t'arrêtes, puis que, tu sais, ça demande de l'attention, de la concentration, de la stratégie. Quand on fait ça, on est en train de simuler un peu l'intellect de l'enfant, mais on est aussi en train de dire c'est le fun de stimuler notre intellect. Est-ce que chez nous, on lit? Est-ce que mes enfants me voient lire?
Ouais.
On se plaint que les enfants ne lisent plus.
Ouais.
Est-ce qu'ils nous voient lire?
Nous, l'école impose aux enfants 20 minutes de lecture par jour. Fait que je trouve ça déjà bien parce que c'est imposé par l'école. Puis des fois, j'en surprends un à lire plus longtemps que 20 minutes parce que là, il est tombé sur un chapitre qui semble l'intéresser plus que les autres. Mais la persévérance scolaire, tu sais, il y a énormément de parents qui essaient de savoir « OK, moi, quand j'étais petit, j'aimais tout ça, l'école. » Puis là, ils expliquent le fait qu'ils n'aiment pas l'école par le fait que leur enfant n'aime pas l'école. Non. « Ah, il est comme moi. Moi non plus, j'aimais pas l'école. Ouais. » La persévérance scolaire, c'est dans notre ADN, est-ce qu'on transmet ça à nos enfants ou c'est juste nos agissements qui font en sorte que ça se peut qu'on ait un impact négatif sur nos enfants?
Bien, ce qui est plus dans l'ADN puis qu'on va plus transmettre, c'est plus nos modèles d'apprentissage puis les capacités cognitives. Donc, tu sais, si tu avais des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage, c'est possible que tu transmettes tes troubles d'apprentissage à tes enfants. T'as tout le temps été quelqu'un de très analytique, ça se peut que tu aies transmis ça à tes enfants aussi. Fait que, t'sais, y a une partie dans comment notre cerveau est fait, que ça, la génétique est là, puis là, c'est l'ADN de papa puis l'ADN de maman.
Mais t'sais, dans le cas où ça peut être négatif...
Les filles ont gagné au loto.
Ouais. Dans le cas où ça peut être négatif, puis ça, c'est toi qui m'as appris ça, puis j'étais justement ce type de parent-là. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma vie ordinaire, je suis hyper timide. Puis j'en ai un à maison qui me ressemble un peu plus, puis il est aussi hyper timide. Quand il est avec des gens qu'il connaît, c'est le plus tannant de la Terre, mais quand il est avec des gens qu'il ne connaît pas, il ne veut pas s'intégrer aux autres, il voulait rester collé sur son père. Puis j'ai induit en lui encore plus de timidité parce que je le défendais. Je disais, ouais, Isaac, il est gêné, il est comme moi quand j'étais petit. Fait que mon gars, il était super content d'être comme son père parce que je suis supposé d'être son héros, à ce qu'il me dit. Bon, il y en a qui ont Superman.
En fait, moi, ça achève.
Ben oui, c'est ça. Mais je renforçais sa timidité en le surprotégeant. Puis je ne l'aidais pas pour la suite des choses. Puis à un moment donné, je t'ai raconté ça, tu m'as dit, Yann, cesse de renforcer ça, puis tourne-le de bord, puis dis, c'est le temps, là. Va voir les amis, allez, tu ne restes pas collé sur papa. Puis ça, SOS Nancy, ça l'a grandement aidé à combler peut-être sa petite insécurité. Là, maintenant, il est capable, après quelques minutes, de se tasser de moi, qui était comme un peu son filet de sécurité, puis d'aller vers des gens qu'il ne connaît pas pour aborder un sujet comme, je sais pas, on peut-tu jouer ensemble? Je peux-tu jouer avec toi? Tu veux-tu qu'on joue à cachette? On va-tu dehors?
Même il est si capable je de le gêner, faire. Je vais quand même.
Fait que quand on fait un lien avec la persévérance scolaire, il y en a des parents sans le savoir qui peuvent renforcer le fait que les enfants n'aiment pas l'école parce qu'ils disent, ben moi non plus, j'aimais pas l'école. Donc, l'enfant veut te ressembler.
L'enfant s'associe, aime se ressembler à son parent. Puis j'ai vraiment une situation très claire là-dessus où j'ai une consultation avec des parents, puis un petit bonhomme, puis là, le père dit, ben lui, puis le jeune n'était pas évalué encore, là. Il s'en allait vers une évaluation, et le père dit, ben moi, je suis dyslexique. Fait que je suis sûre, mon gars, il est dyslexique comme moi. Il a les mêmes difficultés que moi à l'école, puis tout ça. Puis là, à chaque fois que le père disait ça, je voyais le petit garçon se retourner avec une espèce de sourire et un regard admiratif vers son père. Et à un moment donné, je dis au petit garçon, qui a à peu près, mettons, 6 ans, « OK, puis tu sais, qu'est-ce que ça fait si tu es comme papa? » Il dit, « Ben, dis-moi, je vais être un homme d'affaires comme mon père. » C'est un monsieur qui avait quand même pas mal d'argent. Puis là, tu vois, il y a comme une espèce de fierté. Je dis, « OK, mais si, par exemple, ton père se trompe, puis là, on va aller vers une évaluation, puis si jamais tu n'es pas dyslexique comme papa, qu'est-ce qui va se passer? » Fait que là, il y a comme eu un long silence, puis je voyais dans son regard une espèce de panique. Et il se retourne vers sa mère, puis il regarde sa mère, parce que là, dans sa tête, c'était comme si je ne suis pas comme mon père, je suis comme ma mère. Mm-hmm. Mais là, c'est un petit garçon. Fait que là, il regarde sa mère, puis sa mère, c'était une maman qui est au foyer. Et c'était comme si là, c'était ben non, je ne veux pas ressembler à ma mère. Pourtant, sa mère était quelqu'un qui avait eu de la facilité à l'école, qui avait quand même fait des études, elle a fait des choix d'être à la maison. Mais lui, du haut de ses 6 ans, c'est « je ne veux pas ressembler à ma mère, je veux ressembler à mon père ». Puis même le père, quand je disais ben, « peut-être que c'est une erreur et peut-être qu'il n'est pas dyslexique », je sentais une espèce d'inconfort chez le père qui disait « ben là, mais non, regarde, sinon, tu sais, ça ne se peut pas qu'il ne soit pas comme moi ». Fait qu'il y avait un inconfort de part et d'autre. Puis quand j'ai parlé aux parents individuels, que je leur disais, je dis, ben, tu sais, à quelque part, peut-être que vous renforcez ça. Et là, bon, ben, on a fait un exercice où on a regardé, ben, en quoi est-ce que tu ressembles à papa, à part la dyslexie ou les problèmes scolaires,
ouais.
En quoi tu ressembles à lui? Ben, t'es drôle, comme lui, on a toutes sorti des qualités de papa que lui avait, puis on a sorti des qualités de maman que lui avait. Et là, je disais, ben, regarde, tu vois, tu peux être un joyeux mélange de papa, maman, t'es pas obligé de ressembler à un ou à l'autre. Et pour ressembler à ton père, qui est ton héros, tu n'es pas obligé d'être dyslexique. Ils sont effectivement allés vers une évaluation et l'évaluation n'a pas statué à une dyslexie.
Donc, par nos commentaires, par nos gestes, on peut induire des comportements qui font en sorte que nos enfants peuvent avoir des problématiques à l'école, parce que je rappelle qu'on parle de persévérance scolaire. J'ai eu un auditeur qui m'a écrit, parce qu'on parlait de ce sujet-là, il y a de ça... peut-être quelques jours, je te dirais à peu près 2 semaines, qui m'a dit qu'il y a une enseignante, l'enseignante de son enfant, qui l'a appelé pour lui demander la permission que son enfant puisse rencontrer un psychologue à l'école. Et là, le père qui pose des questions, il dit « Bien, pourquoi vous m'appelez pour ça? » Bien, il dit « Bien, j'ai besoin de votre permission pour le mettre sur une liste qui va faire en sorte qu'il va rencontrer le psychologue. » Et le père pousse un peu la recherche et dit « Mais pourquoi vous voulez qu'il rencontre un psychologue? » Puis là, la professeure dit « Bien, on pense qu'il y a un trouble de déficit de l'attention. » Est-ce que les professeurs sont formés comme une éducatrice spécialisée, comme un psychologue, pour détecter justement ce déficit d'attention-là?
Ni les éducateurs spécialisés, ni les profs, on a la permission de diagnostiquer. OK, on s'entend.
Mais vous pouvez le déceler.
Donc, le prof ne peut pas diagnostiquer, ne peut pas dire cet enfant-là, c'est sûr qu'il a un TDAH.
Okay.
Puis moi, non plus, je ne peux pas faire ça comme éducatrice spécialisée. Seuls des psychologues et des intervenants qui sont formés pour faire des évaluations comme ça ont la possibilité de le faire. Ceci dit... sur le terrain, quand tu côtoies un enfant, ça se peut que tu vois des signes. Et justement, l'enseignante pouvait dire, ben écoute, moi, j'ai l'impression que ça se peut qu'il y ait un TDAH et ça serait bien qu'il voit la psychologue, que la psychologue l'évalue. Parce qu'il y a plein de comportements qui peuvent ressembler à un TDAH et qui ne sont pas un TDAH. Un enfant pourrait être dans la lune en classe puis ne pas avoir de déficit d'attention. Il pourrait être dans l'une parce qu'il est anxieux. Il pourrait être dans l'une parce que présentement, il vit des choses importantes chez lui.
Le meilleur
moment. Donc, il pourrait y avoir plusieurs éléments qui viennent jouer sur ses capacités d'attention. Un enfant pourrait avoir du gaz d'avion, avoir bien, bien de l'énergie, mais ne pas nécessairement être hyperactif. Peut-être que ça n'a juste jamais été entraîné chez lui la capacité à s'arrêter puis se concentrer. Peut-être que c'est un enfant que justement, il est agité parce que ben, c'est comme ça qu'il cache son anxiété ou son état émotif.
Ouais. Tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit SOS Nancy, des fois, elle a un trouble de déficit d'attention, ce qui fait en sorte que quand tu tricotes, elle pourrait faire des trous dans le tricot. Si toi, tu avais eu 6 ans en 2025, est-ce qu'on t'aurait peut-être fait rencontrer un psychologue?
Moi, c'est sûr que ma mère, elle se serait dit, ah, oh, je pense qu'elle est défectueuse, celle-là. Mais par bonheur, puis moi, mon déficit d'attention, il n'est pas majeur.
Okay.
Okay? J'ai un déficit d'attention léger, je n'ai pas de médication, je n'ai pas de besoin de médication.
Ça n'existait pas dans notre temps, SOS Nancy.
Non, c'est ça n'existait pas. Mais si ça avait été, si ça avait été, si ça avait existé, probablement que ma mère se serait dit, je pense qu'il y a un problème, parce que tous les profs se plaignaient que je parlais tout le temps en classe. L'hyperactivité, c'était pas si pire. Moi, c'était plus dans ma tête, l'hyperactivité. Mais écoute, j'étais dans la lune. Je suis encore dans la lune, comme ça se peut pas. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Puis moi, ce qui était intéressant, c'est que ma mère voyait mes particularités comme des particularités ou des traits de caractère et non comme un problème. Le fait que j'étais dans la lune, elle disait, ah, c'est parce qu'elle est créative, elle doit avoir une âme d'artiste. Fait qu'elle m'a inscrit à des cours de dessin, des cours de théâtre, des cours de... Fait que moi, ça m'a aidé à développer mon attention, concentration, tout ça. Puis deux, ben oui, j'ai développé mon aspect créatif. Fait que oui, j'avais un peu plus d'énergie que la moyenne. Fait qu'elle dit, ouais, elle est sportive, on va lui faire faire du sport. Fait qu'elle m'a envoyé faire du sport. J'étais hyper verbomotrice. Fait que ça arrive chez beaucoup de personnes qui ont des TDAH. Ben, elle dit, elle a un talent en communication. Fait que partout où ce qu'on passait, s'il disait, on aurait besoin de quelqu'un pour animer, elle dit, nul, moi. Puis elle me garochait là. Puis je me suis retrouvée, écoute, j'ai donné ma première conférence à des adultes à l'âge de 10 ans.
Oh, OK.
Fait que,
C'était quoi le
ils m'ont
sujet?
mis un micro dans les mains, on me dit, elle a toujours une grande gueule, elle. Pas de problème.
C'était quoi le sujet à 10 ans? De quoi jasait SOS Nancy
Le
avec moi?
sens profond de la confirmation.
Oh boy, OK, wow.
J'étais religieuse, moi, je vais rentrer chez sœur. J'avais dit que je vais être.
Non, ben c'est ça, parce que j'ai
Ça peut
l'impression
passer à
que,
côté.
tu sais, dans notre batch à nous autres, là, notre gang qui sont entre, bon, mettons,
On n'est
entre
pas tout à fait dans la même gang.
40 et, mettons, entre 40 et 55 ans, il y en a là-dedans qui avaient des troubles de déficit d'attention, mais c'était pas nécessairement décelé à l'école. Bon, on était les petits tannants ou les petites tannantes, on jasait quand c'était pas le temps, on faisait des jokes qui étaient des fois
Déplacé.
déplacés, les professeurs y hallucinaient un peu, mais on était considérés comme des tannants, puis avec le temps, on a développé nous-mêmes nos propres petits trucs pour essayer de pallier au manque d'attention des fois qu'on pouvait avoir. Puis ce que le père, il me racontait, c'est que l'enfant à la maison, il fait des casse-têtes. L'enfant à la maison, il est capable de lire un livre, d'être concentré comme pas possible. Mais de l'autre côté, à l'école, le professeur détecte un trouble du déficit de l'attention. Donc, il aimerait ça que cet enfant-là rencontre un psychologue. Puis moi, ce que j'ai dit au père qui m'avait écrit à ce moment-là, tu sais, y a jamais personne qui est revenu en disant, hey, le psychologue me fait du mal. Tu sais, ça fait du bien voir un psychologue une fois de temps en temps. Fait que si le psychologue peut confirmer qu'il n'y a pas de problème, ben ce sera ça de fait. Tu sais. Mais les parents
Ouais,
sont
tout à fait.
inquiets pour leur enfant à partir du moment où les éducatrices à la petite garderie commencent à parler de ça, ou le professeur à l'école maternelle commence à parler de ça. Les gens sont stressés.
Ben oui, puis tu sais, en tout cas, moi, à ce parent-là, oui, admettons, l'enfant peut voir le psychologue scolaire, mais ça peut valoir le coup d'aller un peu plus loin. Tu sais, le psychologue scolaire va faire certains tests. Si les tests disent, ben oui, il y aurait possiblement un déficit d'attention, ben moi, je suggère aux parents d'aller chercher une évaluation au privé, peut-être au niveau auprès d'un neuropsychologue qui va aller faire d'autres types de tests pour comprendre un peu comment le cerveau de l'enfant fonctionne. Et puis là, si des deux côtés, ça dit que oui, effectivement, il y a un TDAH, ben, je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est juste, on peut ajuster l'enseignement, on peut ajuster nos attentes. Et les parents ont tendance à penser que si un diagnostic de TDAH, il va falloir absolument lui donner une médication. Ah ben non, il y a une portion des enfants avec un TDAH qui ont besoin de médication pour fonctionner. Mais la majorité des enfants avec un TDAH peuvent fonctionner soit avec pas de médication, puis des ajustements, soit avec une médication minimale pendant un certain temps, le temps juste de travailler sur certains aspects. Là. Mm. Mais il y a une minorité de personnes avec des TDAH qui vont avoir besoin d'une médication importante toute leur vie.
Ouais.
C'est pas obligatoire. Il y a d'autres façons de travailler avec le TDAH, mais c'est intéressant de le savoir.
Ouais. Puis, on parlait des écrans tantôt qui pouvaient être très néfastes pour nos enfants, des écrans qui vont à 350 000 km/h. Puis après ça, ils ont un prof plate qui est à l'école, qui essaie de l'enseigner de la matière. Là, l'enfant, il dit « Tabarouette, ralentissement, je m'endors, je veux regarder la mouche qui vole. Est-ce que les écrans, ça, c'est prouvé. Est-ce que la nourriture peut avoir un impact sur le TDAH? Est-ce qu'une nourriture, je ne sais pas moi, des grosses céréales, là, deux gros bols de céréales, donc deux gros bols de sucre avant d'aller à l'école, ça peut-tu nuire à notre enfant, ça?
Bien, certain. En fait, ce qu'on mange puis ce qu'on boit, c'est le carburant de notre cerveau. Fait que, tu sais, si le jeune, puis on parle de sucre, mais au-delà du sucre, les aliments transformés, les additifs alimentaires, les colorants alimentaires. Si tu vas sur le site de Santé Canada, il y a certains colorants alimentaires, dont le colorant rouge et les colorants jaunes, si je ne me trompe pas, où c'est clairement écrit que ça peut provoquer de l'agitation et de l'irritabilité. Tu sais, je veux dire, fait que oui, si ton jeune déjeune à toi le matin avec un grand verre de jus d'orange, ça a beau être du jus avec pulpe et naturel, c'est quand même plusieurs fruits concentrés, donc il y a quand même beaucoup de sucre, même si c'est des sucres naturels. Il déjeune avec ça, un bol de Fruit Loops, une toast au pain blanc au beurre d'arachide super sucré, là, qui n'est pas nécessairement du... Ben oui, tu boostes ton jeûne avec des aliments transformés, du colorant alimentaire, puis tu le bourres de sucre, puis tu l'envoies à l'école. Puis tu sais, des gens vont dire « Oui, mais ça n'a pas été prouvé que le sucre crée de l'agitation. » Non, je suis d'accord. Sauf que le sucre va déclencher beaucoup la production de Boswell. Qu'est-ce qu'on donne aux diabétiques?
Aux diabétiques?
Hey, c'est une on leur injecte là.
Ça va nous revenir, mais tu sais, n'importe quel scientifique qui vient chez nous là, puis qui assiste à un moment où mes enfants sont corrects, puis après ça, je leur donne une barre de chocolat. L'étude, elle durera pas longtemps. Moi, après 20 minutes, là, mes gars, ils ont le gaz au fond, puis ça court partout, puis ça se tape l'un sur l'autre. Là.
Ben oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont un boost d'énergie rapide, puis après ça, c'est l'insuline qui embarque, voilà, c'est ce que je cherche. Ouais. L'insuline qui embarque, et là, l'insuline va venir comme un peu réguler ça, mais après ça, il va avoir une baisse d'énergie. Et là, dans la baisse d'énergie, ton jeune va avoir peut-être s'endormir. On le voit, on le vit. Admettons, quand sur l'heure du midi, je mange un gros plat de pâtes avec plein de glucides dedans, ben je risque bien plus de m'endormir en début d'après-midi que si je mange une salade. Ben tu sais, c'est la même affaire pour les enfants. Puis moi, quand je travaillais en milieu scolaire, je travaillais aussi, j'arrondissais mes horaires tout en étant au service de garde. Et c'était fascinant de voir les lunchs des enfants. C'est un plat de pâtes avec de la sauce transformée, avec ou une sandwich de pain blanc, puis après ça, un Joe Louis, puis un jus sucré, puis là, je me disais, ben la pizza pochette, tu sais, les jeunes, puis je comprends, là, tu sais, des fois, au niveau financier, c'est pas évident, je comprends qu'au niveau de la gestion du temps, c'est pas évident. Mais tu sais, quand je vais dans les familles, puis il y a un enfant qui a des difficultés attentionnelles, que ce soit un TDAH ou pas, ben tu sais, oui, je vais couper les écrans. Oui, il va falloir qu'on s'assure que l'enfant dort suffisamment. On va s'assurer que l'enfant fait suffisamment de sport. Et on regarde, ben qu'est-ce qu'il mange? Fait que le matin, est-ce qu'il y a des protéines dans ce qu'il mange? La plupart des gens ont zéro protéine le matin. Ça te soutient, ça.
Mm-hmm.
Est-ce que s'ils ont des glucides, c'est des glucides complexes? Est-ce que c'est bien qu'ils boivent du jus d'orange ou qu'il y a une portion de fruits, mais il faut doser aussi? Après ça, sur l'heure du midi, ben, est-ce que c'est quelque chose de très gras ou avec tout plein de glucides dedans? T'sais, les gras aussi, ça va comme... Ça effoire un cerveau. Là. Fait que, est-ce qu'on a quelque chose qui est relativement léger? Puis là, ben, tu as des jeunes qui ont de la médication, qui n'ont pas faim le matin ni le midi, fait qu'ils vont juste être tentés vers leur Joe Louis. Ben, tu sais, on peut-tu comme remplacer le Joe Louis par un par un yogourt, par exemple,
ouais.
quelque chose.
Mais la vitesse à laquelle la vie
va. C'est du jus de cerveau.
Ouais, la vitesse à laquelle la vie va, des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de faire notre possible, puis. Ben oui, le petit jus de fruits qui est rempli de sucre, on va le donner à notre enfant, ça va super rapidement, merci, bonsoir et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup ton approche, c'est-à-dire on va tout faire en sorte que, avant de se pointer là, chez l'évaluateur pour savoir si c'est un TDAH, là, on va regarder son alimentation, on va regarder s'il dort assez. Tu sais, je regarde des fois les statistiques.
Ben, c'est les
écrans.
On va regarder aussi au niveau de l'anxiété. L'anxiété,
ouais.
c'est souvent, ça se déguise souvent en TDAH.
Ouais. Je regardais, quand on jasait, toi et moi, on avait déjà parlé des fameuses statistiques là, au Canada. La province de Québec est l'endroit où on prescrit le plus de médicaments pour le TDAH à nos enfants. T'sais, moi, j'aime beaucoup votre nouvelle approche. En fait, toi, ça a toujours été ton approche d'évaluer tout au départ pour après ça avenir un diagnostic qui a du bon sens plutôt que de commencer avec un diagnostic et dire « Oh, ouais, il est vraiment... Le cerveau de votre enfant va trop vite alors qu'on bourre nos enfants de sucre constamment. » À un moment donné, il faut être très... Moi, je pourrais dire ça, il faut être très sécuritaire dans notre approche avec notre enfant avant qu'il rencontre le psychologue.
Oui, puis tu sais... En fait, la plupart des tests pour dépister le TDAH sont basés sur le comportement de l'enfant. Ils évaluent le comportement, ils n'évaluent pas la cause. Il n'y a pas une espèce de prise de sang qu'on peut prendre et dire « Ah, ben oui, c'est vraiment un désordre neurochimique qu'il y a. » Fait que ça vaut la peine d'évaluer, de faire le tour de toutes les composantes qui peuvent influencer ce comportement-là. Je vais aussi souvent suggérer aux gens « Allez faire l'évaluation de votre jeune. » Pas là au mois de février-mars. Tu sais, là, comme là, mettons, la personne qui te parlait, c'est pas un bon timing, là, pour faire évaluer ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué, on est en hiver, il manque de soleil, ça se peut qu'il dorme pas bien, la semaine de relâche s'en vient, fait, et tout le monde sait que les enfants, là, sont plus fatigués à ce moment-ci. Fait, comme il est plus fatigué, bien, ses scores au test risquent d'être moins bons.
Mm.
Tu veux avoir une bonne évaluation de ton enfant pour savoir s'il a vraiment un TDAH ou pas, fais-le évaluer au moment où il est reposé. Juste après les fêtes, peut-être, à l'été, peut-être, mais fais-le. Puis, dans les semaines qui précèdent, surveille son alimentation, surveille son sommeil, assure-toi qu'il fait de l'exercice. Puis là, après ça, fais-le évaluer. Si malgré tout, il cote pour un TDAH, mais là, tu vas avoir une meilleure évaluation.
Je ne veux pas sonner comme Elvis Graton, mais m'a-t-elle dit pareil. Y a-tu déjà un homme qui vous a dit à quel point vous étiez formidable, Madame SOS Nancy, pour nos enfants?
Oui! Déjà!
Merci.
Je vous mets tout le temps plein de beaux compliments.
SOS Nancy, on va faire une courte pause. Puis après la pause, il reste quelques minutes à ce fameux podcast avec SOS Nancy. On va parler d'authenticité parentale. Est-ce qu'on parle avec nos enfants de façon authentique? Est-ce qu'on est fake parfois? Est-ce qu'on le fait intentionnellement ou non intentionnellement? Puis c'est quoi être fake avec nos enfants? On va faire la différence. On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1. Tous les vendredis, dans Gravel, dans le retour, on a l'immense privilège de recevoir Pierre Aude. Un vrai couteau suisse. Parce que, oui, vous le connaissez pour le hockey et la F1. Mais il peut aussi vous parler musique, bonne bouffe et vin. Il peut même devenir votre conseiller voyage.
Mais ça a l'air le fun à Salt Lake City.
Il y a l'air d'avoir de l'ambiance.
C'est cool. Tu sais, on dit « keep Austin weird
oui. ».
Keep Salt Lake weird ». Mais de la bonne façon, je le dis avec affection. Mais c'est tellement cool. J'ai jamais vu autant de barbe à la ZZ Top, Denis.
Non, 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 non.
Je te jure, il y en avait 3-4 par restaurant.
Pierre Aude, votre incontournable du vendredi.
La Disco Glace, c'est la première discothèque glacée en Amérique du Nord et on a la chance de l'avoir à Québec. Boulevard est fier de t'inviter à cette toute nouvelle patinoire réfrigérée située à l'Agora du Port de Québec qui t'accueille gratuitement 7 jours sur 7. Viens aussi vivre l'ambiance unique des soirées thématiques du jeudi au dimanche. Avec son décor hivernal enchanteur, c'est la place parfaite pour illuminer tes soirées et tes week-ends avec des jeux de lumière et de la musique. Enfile tes patins et viens faire vibrer la Disco Glace en collaboration avec Boulevard 102.1. Tu cherches l'amour, mais t'as pas encore trouvé ta douce moitié? Pour la Saint-Valentin, offre-toi l'amour en version sucrée au croque en bouche. Croque en bouche sur Saint-Joseph. L'amour commence ici.
À Québec, un Ford, ça se penche déjà un Ford. chez Desjardins Auto Collection. Profitez de jusqu'à 10 000 $ de rabais sur le F-150 2024 avec la doublure de plateau sans frais. Obtenez jusqu'à 6 500 $ de rabais sur le Mach-E et crédit de 750 $ pour l'achat d'une Bob. Vos meilleures offres Ford, c'est chez Desjardins Auto Collection sur la rue Marais à Vanier.
Je vois une maison, une hypothèque et plus d'argent dans vos poches. Je vois aussi qu'on vous donnera de bons conseils. Un ami peut-être? Oh non, un courtier.
Votre courtier multiprêt hypothèque, le meilleur allié pour votre renouvellement.
Du 7 au 16 février, en way dehors avec le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. Graffiti sur le palais de bonhomme, instruments de glace, Lumiglace Banque Scotia, un spectacle de son et lumière, quiz, disco silencieuse, sculpture et plus encore. Et nouveauté de cette année, les appels surprises Coureurs des bois. Lorsque ça sonne, entre et découvre une surprise. Déplace-toi aussi gratuitement avec les navettes Vidéotron. Procure-toi ton effigie pour seulement 39 $ plus taxes dans les couche-tard participants ou sur carnaval.qc.ca.
À Expo Habitat Québec, il y a tout ce qu'il faut pour planifier vos projets. Maisons à visiter, nouveaux matériaux, tendances design, cuisine en démonstration et surtout, des entrepreneurs fiables et disponibles pour répondre à vos questions. Vous avez un projet? Planifiez votre visite en consultant les exposants et les nouveautés en ligne sur expohabitatquebec.com. Ça s'en vient du 20 au 23 février à Expo Cité. Expo Habitat Québec présenté par l'APCHQ en collaboration avec Espace Proprio pour faciliter vos projets d'habitation.
Plus j'y pense, plus j'ai bien fait de cotiser à mon REER chez Desjardins. Si j'ai un remboursement d'impôt, je pourrais changer de laveuse ou voyager, oh, cotiser à mon CELI.
Ou dormir peut-être. Et minuit, chérie.
Ben oui, j'ai cotisé. Je peux dormir sur mes deux oreilles, hein?
Offrez-vous des économies d'impôts pour 2024. Cotisez à votre REER chez Desjardins au plus tard le 3 mars 2025. Conditions et modalités applicables.
Quand on a un accident d'auto et qu'on n'est pas attaché, on commence par passer à travers le pare-brise. On passe ensuite à travers de longues minutes de réanimation. On passe à travers une batterie de tests et de chirurgie. Pendant que des tubes nous passent à travers la gorge, on passe à travers plusieurs jours dans le coma pour que finalement notre famille passe à travers un deuil. Parce qu'on n'a pas passé à travers. Portez votre ceinture de sécurité. Restez en vie. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vendredi à Télé-Québec, ça va être épique.
Dans 3, 2, 1!
Les jaunes affrontent les vertes au ballottage.
Let's go!
Et la pression est au max. Si tu l'as, c'est fini, tu gagnes.
Quel trio sera éliminé?
C'est pas fini tant que c'est pas fini!
Pour les vainqueurs, c'est de nouveaux défis dans une nouvelle région.
Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ouais. C'est là que ça tourne.
C'est la compétition aux sensations fortes, éprouvantes et spectaculaires. Épique, vendredi 20h à Télé-Québec. Aussi sur le web et l'appli, c'est gratuit.
Cette Saint-Valentin, offrez à votre moitié un coffret spécial signé Équilibre Traiteur. Mise en bouche délicate et plats raffinés comme la burrata avec sa confiture ou la joue de bœuf braisé. Disponible du 13 au 15 février en livraison ou cueillette. Commandez dès maintenant sur équilibre-traiteur.ca.
Leclerc Communication, le seul groupe radio de propriété locale et familiale à Québec, est fier de contribuer au développement économique d'ici.
Lorsque vous encouragez les annonceurs locaux qui diffusent de la publicité sur les ondes de Boulevard 102.1,
vous participez non seulement à la vitalité économique de votre ville,
mais également à la pérennité de votre radio.
Chers auditeurs, merci de soutenir nos annonceurs.
Chers entrepreneurs et dirigeants d'entreprise, merci de choisir Boulevard 102.1.
Plus que jamais, contribuons à faire rayonner les entreprises de chez nous.
J'ai une idée. Cette année, on devrait appeler la Saint-Valentin la fête de l'amour du français. Parce qu'aimer, c'est aussi de bien parler notre langue. Alors, célébrons en français avec de beaux mots, en écrivant bien, puis en s'aimant fort, fort.
Un message d'Impératif français.
Toi, mon français, je t'aime.
Louez le Volkswagen Taos 2025 à partir de seulement 3,49% sur 48 mois. Profitez d'un VUS compact qui allie style, confort et technologie avancée. Parfait pour toutes vos aventures. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Dans le podcast de Marceau au soir, on a le plaisir de recevoir SOS Nancy, son vrai nom. C'est Nancy Doyon. Vous pouvez la retrouver sur les internets parce que c'est une spécialiste, une éducatrice spécialisée qui fait du coaching familial. Donc SOS Nancy, c'est assez simple à retenir. Juste à taper ça sur Google si jamais vous voulez vous informer sur le sujet puis avoir ses services, bien entendu. On parle d'authenticité parentale. C'est un beau grand mot, là, authenticité parentale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
En fait, c'est le sujet dont je parlais. Aujourd'hui, moi, j'ai une communauté qui s'appelle les parents leaders. C'est une communauté là, qui est abonnée. Puis c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis je trouvais ça intéressant de venir en discuter avec vous autres. Je trouve que dans beaucoup de cas, je vois des adultes qui, quand ils s'adressent à leurs enfants avec un ton qui n'est pas le leur. Des fois, c'est le ton de l'éducatrice de garderie.
Ouais.
Des fois, les parents parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Moi, quand tes enfants ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux bien, là, mais quand ton jeune est rendu à 12 ans et que tu dis « Oh, là, là, papa, il n'est pas content. Hein? » Merde, qu'est-ce que c'est ça? Un papa, il. Non, tu peux t'appeler je. Puis deux, tu sais, je veux dire, n'importe qui sait bien que quand tu dis « Oh là, là, papa, il est pas content. Là, papa, il est fâché. » Tu vois bien que ça sonne faux.
Ouais, puis des fois, le SOS Nancy, je plaide coupable, là, des fois, on a tendance à jaser avec nos enfants, puis de prendre un ton très, très sévère. On est tellement habitué de tout le temps reprendre nos enfants qu'on a tout le temps ce ton-là. Puis tu te dis, mais coudonc, je fais juste reprocher des choses à mes enfants. Fait que des fois, j'essaie de me dire, OK, j'ai fait des reproches à mes enfants, mais là, il faudrait que je reprenne sur moi parce que mes enfants ont des belles qualités aussi. Puis là, de parler aussi de leurs qualités avec un autre ton.
Oui. Bien, effectivement, entendre le ton. Puis tu sais, effectivement, on pourrait parler de l'abus de reproche et de critique. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est parler vrai à vos enfants. Un, parler vrai sur un ton vrai. Puis moi, c'est un des compliments que j'ai entendu assez souvent de la part de jeunes avec qui j'ai travaillé qui disaient ben, « Nancy, elle nous parle comme à un grand. » Fait que tu sais, si j'ai un enfant de 17 ans puis qu'il ne veut pas faire ses devoirs, je peux lui dire « Antoine, je comprends que ça ne te tente pas tes devoirs, là, puis que tu es fatigué, mais tu n'as pas le choix, mon grand. Fais tes devoirs, je vais t'aider, mais... » Au lieu de dire, là, Antoine, tu le sais, hein, les devoirs, c'est obligatoire, mon grand. C'est, voyons, le parent, il parle comme ça à son enfant, puis après, c'est, hey, chérie, tu peux te sortir les bidons, s'il te plaît. Alors, toi, voyons, c'est ça.
Je ne sais pas pourquoi on fait ça.
Je ne sais pas. Ça, parler de soi à la troisième personne, ou encore les compliments, les faux compliments. « Oh, wow! Il est donc bien beau, ton dessin! Oh, maman est fière de toi! » Voyons, ça sonne fake. Hey, moi, là, si je me mets cute vendredi là, pour la Saint-Valentin, puis ouais. Mon chum fait comme « Oh, wow! Nancy, je te trouve tellement jolie! » Ben, l'envoyer promener.
Ben oui, c'est clair.
Ça peut-tu venir du cœur?
Oui. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez nos enfants? Tu sais, je prenais le ton tantôt, là, des fois, la fin de semaine, je suis concentré à faire des affaires. Puis à chaque fois que j'avertis mes enfants, c'est parce qu'ils ont fait de quoi de pas correct. Puis moi, j'ai deux petits gars avec plein d'énergie. Fait que je fais juste leur parler, mais à chaque fois que je leur parle, c'est tout le temps pour quelque chose de négatif. Tu sais, l'impact que ça peut avoir d'un père qui est constamment négatif à l'égard de ses enfants, ça peut faire quoi à long terme? Parce que l'objectif, c'est pas de détruire mes enfants, bien entendu, mais il faut que je me parle en me disant, il me semble qu'un matin, j'ai juste averti mes enfants. Ce serait le fun que je travaille sur d'autres choses cet après-midi.
Oui, mais en fait, là-dessus, par rapport aux critiques, je te dirais, il faut faire attention. J'aimais bien la phrase qui dit... La voix ou ce que vous dites à vos enfants, ça va devenir plus tard leur petite voix intérieure. Fait que, tu sais, si je dis tout le temps à mes enfants qui sont tannants, qui sont gaffards, que, tu sais, puis je me souviens d'une fois, ma fille, vous voyez, on était dans un grand magasin, puis elle voit, là, à peu près 8-9 ans à l'époque, Puis la voix de maman, je ne sais pas, là, écoute, elle était peut-être fatiguée à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on a une photo d'une maman qui est très irritée, irritable, puis qui n'arrête pas d'intervenir sur ses garçons en disant « Touche pas! Qu'est-ce que je t'ai dit? Attention à la madame! Caroline que je suis tannée! Ôte-toi de là, décolle un peu! » et là, ma fille me tape sur l'épaule et elle me dit « Maman, pauvre garçon, ils doivent tellement avoir l'impression d'être de trop dans la vie de leur mère. »
Hé, OK. Mais tu veux pas que ton enfant ait cette impression-là, là?
Ben voilà. Fait que, tu sais, si on est beaucoup, beaucoup dans les critiques, dans les reproches, puis même si on utilise le petit ton fait de l'éducatrice de garderie, si on est toujours là-dedans, le jeune, à un moment donné, a l'impression d'être dérangeant, a l'impression d'être de trop, et risque d'acheter la perception de lui que, ben, lui est tannant, que lui n'est pas correct, que lui... Fait que, un... Puis j'aimais aussi une autre phrase que j'avais vue sur Facebook qui disait « À force de trop critiquer les enfants, l'enfant ne va pas cesser de vous aimer vous, il va cesser de s'aimer lui. » C'est ça le pire.
Ouais.
De si on est tout le temps dans le ton irrité, puis moi j'ai envie de proposer aux gens, je ne sais pas trop combien de temps il nous reste, là, mais j'ai envie de proposer aux gens un exercice que je trouve fort intéressant que je propose souvent à mes familles. Prenez un calepin. OK? Puis, une petite feuille, là, puis dans une journée, faites juste attention à observer quand est-ce que je rentre en relation avec mes enfants, de façon verbale ou non verbale. Chaque fois que je rentre en contact avec mon enfant, puis que ça goûte bon pour lui, là, c'est le fun. OK? Je lui fais un compliment, je lui fais un clin d'œil, je le taquine, je m'intéresse à ce qu'il fait, je m'intéresse à son opinion. Je vais venir mettre un astérix sur ma feuille. Si je passe 15 minutes à jouer avec puis qu'on rigole vraiment, je vais peut-être mettre 5 astérix. Tu sais. Je l'endors dans mes bras, je vais peut-être mettre un autre 5 astérix. Chaque fois que je rentre en contact avec mon enfant et que ça goûte mauvais pour lui, c'est une critique, un reproche, un soupir, un « ben voyons, non! Dépêche, qu'est-ce que je t'ai dit? Touche pas, Caroline! » Okay. Toutes les fois où on parle à nos enfants sur un ton irrité, qu'on leur donne des ordres, qu'on leur fait sentir avec nos yeux ou avec nos soupirs qu'ils ont encore fait quelque chose de pas correct, ben à chaque fois que je fais ça, je vais mettre un crochet. Si je lui fais, là, je lui fais un beau gros sermon négatif de « je suis tannée, gna, 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 gna », je vais tout de même mettre 5 crochets. J'ai levé le ton, j'ai sacré, je vais en mettre 5 aussi. À la fin de la journée, bien, je vais observer. C'est quoi mon ratio étoile-crochet? Bien, si je veux avoir une belle relation avec mon jeune, si je veux qu'il pense du bien de lui-même, si je veux le motiver à bien se comporter, il devrait y avoir 3 fois plus d'étoiles que de crochets. 3 fois plus d'interactions agréables et positives, mais sincères. Fait que là, c'est pas « Oh, bravo, mon grand! » Non, non, c'est comme « Hey, merci beaucoup, j'apprécie. » Donc, je suis sincère, je suis dans mon cœur, je suis pas dans ma tête. Donc, il devrait y avoir 3 fois plus d'étoiles que de crochets, 3 fois plus d'interactions agréables, 2 fois où je fais sentir aux jeunes que je suis contente de passer du temps avec, que je l'aime donc bien. Tu sais, quand je suis en train d'éplucher les carottes, puis que je fais « Manu! » Puis elle fait quoi? « Je t'aime. » Juste ça. Fait que des fois, quand on l'a en tête, notre ratio, moi, comme maman, j'avais souvent mon ratio, puis je me disais « Hey, sais-tu quoi, Nathalie? Je pense que tu as atteint ton quota de chiolage pour la journée. » Je voyais que mon tableau, je faisais une collection de crochets. Je me disais, ben, tu vas en laisser passer un brin. Là.
Est-ce que...
Ou bien tu vas intervenir avec humour. Ouais. Ou bien tu vas le faire avec plus de douceur. Mais peut-être que je vais laisser passer une coupe d'affaires. La serviette est à terre dans la salle de bain. Ben, accroche-le donc au lieu de chioler encore.
Ouais. Est-ce que je peux faire part à mes enfants ou à mon enfant de mon état émotif? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas une belle journée pour maman. Ou aujourd'hui, ce n'est pas une belle journée pour papa. J'aimerais qu'aujourd'hui, dans la maison, ce soit une belle ambiance. Mais ça se peut que je sois choqué si vous faites quelque chose qui ne va pas. Tu peux-tu le dire avant et après? Là?
Oui, la seule chose, c'est que je remplacerais papa par moi. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour moi. Je vais parler de sincère. Pas...
Okay.
Là, mon grand, là, aujourd'hui, là, c'est pas une bonne journée pour papa.
Je comprends.
Non, parle pour vrai. Là, dire, ah, écoute, là, aujourd'hui, mon grand, il faut juste que tu saches, là, j'ai eu une mauvaise journée, j'ai pas bien dormi. J'ai pas de patience. J'ai vraiment pas de patience. Fait que pouvez-vous faire un effort, là, puis donner un petit coup de main de plus ou faire un petit effort pour être moins bruyant? Je suis pas en forme aujourd'hui. Ça m'arrive.
Ça va faire en sorte que notre relation va être plus franche avec nos enfants, puis plus vraie.
Ouais. SOS... Mon jeune va peut-être, après ça, être ouvert à lui me parler de ses mauvaises journées.
Exact.
Si moi, ça arrive aussi.
Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu avais vu ça sur Internet. Vous allez devenir la petite voix de vos enfants qui vont devenir des adultes par la suite. Fait que, tu parles de 75 % de positifs contre 25 % de négatifs ou de reproches parfois qu'on peut faire avec nos enfants quand un enfant décide de laisser sa serviette à terre. Moi, c'est tout le temps, tous les samedis, matin, la serviette est à terre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas grave, j'ai le droit jusqu'à 25 % de négatifs, mais il faut que je compense par le 75 % de positifs. SOS Nancy, on te retrouve sur ton site Internet, SOS Nancy.com, tu es éducatrice spécialisée, tu fais du coaching familial, toi et ton équipe. Donc, pour les gens qui veulent avoir accès à toi, c'est directement sur sosnancy.com. Je te remercie beaucoup.
Et sur ma page Facebook, c'est vraiment une belle place. On me donne plein de matériel gratuit. Donc, SOS Nancy Coaching Familial sur Facebook.
Je te remercie beaucoup.
Instagram, c'est Nancy Doyon, coach familial.
Merci d'avoir été avec nous.